Bonne journée sur RVE, il est 18h.
À partir de 18h, rencontre avec tous les dimanches et la rediff le mardi à 23h.
Pendant une heure, Jean-Michel Beauregard recevra une personnalité du milieu politique, économique, culturel, sportif. Rencontre avec.
Rencontre avec.
C'est Jean-Michel ce soir. Rencontre avec. Bonsoir, rencontre avec. Ce soir, mon invité se nomme Jean-Paul Widmer. Les Rambouillettiens le connaissent bien, puisqu'il est resté plusieurs années responsable de l'ONF pour la région. Alors, Jean-Paul Widmer, pourquoi avoir tourné Kazakh comme ça? D'abord, il y a combien de temps que vous avez quitté l'ONF? Vous aviez l'impression d'en avoir fait le tour? Ou bien est-ce tout simplement une opportunité qui s'est présentée à vous?
Oh, c'est beaucoup plus simple que ça. C'est que... dans le cadre de la réorganisation de l'Office national des forêts, mon poste a été supprimé du jour au lendemain. Donc j'aurais eu la possibilité peut-être de récupérer des fonctions à l'Office des forêts ailleurs, mais j'ai pensé qu'il fallait peut-être tourner la page, que c'était le bon moment de tourner la page. Ça faisait depuis 69 que je travaillais à l'Office des forêts, 12 ans en Haute-Marne, un peu plus de 3 septennats sur Rambouillet. Bon, donc il fallait faire autre chose, quoi. Il fallait faire autre chose.
Bien. Alors,
D'abord, c'est pas Widmer, hein. Je tiens absolument au Widmer.
Widmer, d'accord.
Parce que donc mon nom n'est pas d'origine anglo-saxonne, mais d'origine suisse, donc ouais. Un peu germanique, et c'est donc un V et non pas un W.
D'accord, donc dont acte. Jean-Paul Widmer.
Voilà.
Alors, vous participez donc tout de suite après à la création d'Actéon. Actéon, qui est une association au sein du ministère de l'Agriculture. Alors, expliquez-nous un petit peu ce que c'est, à quoi ça correspond, quelle est sa philosophie, etc.
Alors, Actéon, c'est pas moi qui l'ai créé, quoique. On en parlera peut-être tout à l'heure. Mais Actéon est une association qui a débuté il y a exactement 10 ans, puisqu'on va fêter les 10 ans d'Actéon au Comte Trichot samedi le 20 mai. Mmh. A été créée par la Fédération des chasseurs de Paris.
Ouais.
À l'époque, Jacques Bodin et son ami René Souchon, qui ont pensé qu'il fallait faire quelque chose vis-à-vis des nombreux chasseurs qui sont sans territoire, des chasseurs urbains, hein, qui se retrouvent, qui veulent aller chasser et qui n'ont pas de territoire à leur disposition. Or, il se trouve qu'en France, il y a quand même un certain nombre de zones dans lesquelles il y a un certain dépeuplement, va-t-on dire, pour parler
ouais.
plus.
Ouais.
Et il y a des coins où les chasseurs sont un nombre insuffisant pour assurer la gestion normale d'un territoire.
D'accord.
Et donc, l'idée, c'était de mettre en relation des gens qui cherchaient un territoire.
Ouais.
Avec des territoires qui cherchaient des personnes.
D'accord.
Alors, comme ça présenté, c'est tout simple, ça semble absolument évident, et, hein, c'est pas aussi simple et aussi évident qu'on veut bien le penser.
Ouais. Ouais. Ben, on va
donc,
voir.
Ça a 10 ans d'âge,
ouais.
ça a 10 ans d'âge,
ouais.
et en fait, moi, je travaille donc sous la houlette du nouveau président de la Fédération des chasseurs de Paris qui s'appelle M. Dutruc-Rosset, que les Rambouillettiens connaissent un petit peu puisqu'il est commissaire à l'aménagement des domaines présidentiels de Rambouillet et Marly, donc il est aussi président de la Fédération de Paris, et il m'a demandé donc de faire un peu de promouvoir Actéon et de faire le développement de cette association. Voilà.
Alors on va voir tout au long de cette émission comment vous êtes structuré, comment vous agissez, quels sont les principes aux axes que vous voulez développer. Et mais quand on revient un petit peu sur cette philosophie, c'est-à-dire chasseurs parisiens, tout le monde le comprend, ils ne peuvent pas chasser à Paris, donc il faut bien qu'ils s'expatrient quelque part, et donc ça veut dire territoire nouveau pour eux, et ces territoires, comment vous les collectez?
Mais alors là, je ne sais pas si vous l'avez fait exprès ou pas, mais c'est vraiment, c'est notre problème.
Ouais.
Parce que notre problème n'est pas de trouver des clients qui soient parisiens ou autres, parce que finalement, ouais. des chasseurs, il en existe un certain nombre, des chasseurs qui cherchent des nouveaux territoires, il en existe beaucoup. Notre problématique, justement, c'est de trouver des territoires qui acceptent qu'il y ait des chasseurs étrangers qui viennent chez eux. Mmh. Alors, ce qu'il faut bien voir, c'est que c'est normal. Le chasseur, c'est un prédateur, qu'on le veuille ou non. Hein. Ouais. C'est un prédateur. Et comme tout prédateur, il n'aime pas trop qu'il y ait un autre prédateur qui vienne à côté de lui, qui vienne sur ses terres. Donc, la démarche n'est pas aussi simple qu'on pourrait le penser. Alors, que cherchons-nous ? On va chercher des endroits, comme je vous le disais tout à l'heure, où le nombre de chasseurs est en diminution parce qu'il y a une démographie telle que le nombre de chasseurs diminue. On va chercher des territoires sur lesquels les chasseurs locaux chassent une espèce
bien particulière.
Bien particulière. Mmh. J'allais dire, prennent leur pied à chasser cette-là. Et quand il y a des espèces autres qui viennent, ça les ennuie. Par exemple, chacun sait qu'au sud de la France, le chasseur de base, c'est le chasseur de sanglier.
Ouais.
Eh bien, quand il y a des chevreuils qui sont là, le chasseur de sanglier, les chevreuils les ennuient parce que les chiens se mettent sur les chevreuils, ouais. Et donc la chasse aux sangliers est perturbée. Donc, et le chevreuil, ça les fait pas flipper outre mesure. Donc, c'est là où on va pouvoir intervenir pour leur dire, écoutez, vos bracelets de chevreuil, au lieu de les faire à regret ou à contre-cœur, passez-les à Actéon, et nous, on va vous les vendre, moyennant espèce sonnante et trébuchante, à des chasseurs qui ne demandent que ça, et avec cet argent-là, ça vous permettra d'aménager votre territoire, ça vous permettra de racheter des nouveaux chiens, ça vous permettra de... etc. etc.
D'accord.
Et c'est comme ça qu'on finalement, on arrive à trouver des possibilités de chasse. Mais c'est pas évident du tout, et vraiment, c'est la pierre d'achoppement de l'association, c'est à l'heure actuelle de trouver des territoires.
D'accord. Donc on a mis un petit peu la charrue avant les bœufs, parce que je voulais vous... Enfin, j'ai la charrue avant les bœufs, parce que je voulais vous poser la question d'abord, pourquoi une association et pourquoi pas une société commerciale ?
Très très bonne question. Bravo.
Merci.
Merci de me l'avoir posée. Généralement, quand on dit ça, c'est parce qu'on est très ennuyé pour répondre. Là, en l'occurrence, c'est pas du tout le cas. L'objectif que s'est fixé cette association Actéon, c'est de faire du développement local, c'est-à-dire d'utiliser l'argent des chasseurs qui viennent, des étrangers qui viennent chasser dans les territoires, pour que cet argent-là soit dépensé sur place et utilisé sur place. C'est-à-dire que, un, ça soit utilisé par la société de chasse ou l'association de chasse, certes, mais aussi par des hébergeurs, mais aussi par des restaurateurs, mais aussi que les chasseurs qui vont venir vont aller acheter le pinard du coin, vont aller acheter le fromage de brebis qui est produit là. Que tout cet argent soit essentiellement réinvesti sur place. Enfin, quand je dis réinvesti, c'est pas de l'investissement en construction ou comme ça, mais apporte un flux financier qui va permettre un certain développement local. Voilà, c'est ça l'objectif.
D'accord.
Et donc, on n'a rien à voir avec un système commercial où le système commercial, c'est le patron qui cherche à se mettre de l'argent dans la poche.
D'accord.
Là, c'est pas du tout. Là, on cherche à faire en sorte que l'argent qui va être dépensé par les chasseurs, soit réinjecté directement sur place.
D'accord.
C'est ça l'objectif.
Alors pourquoi la tutelle du ministère de l'Agriculture, par exemple ?
Eh bien, c'est parce que...
Et pourquoi pas un autre ministère, le tourisme, par exemple ?
Ben ça, c'est encore une excellente question. Alors, pourquoi l'agriculture ? Moi, par exemple, je suis mis à disposition de pour l'association Actéon par le ministère de l'Agriculture. Pourquoi ? Parce que le ministère de l'Agriculture considère, et la loi sur les affaires rurales qui est passée au printemps dernier, là, en 2005, indique bien que la chasse fait partie du tourisme rural et que le tourisme rural doit faire vivre des zones rurales en difficulté. Donc voilà, c'est dans ce raisonnement-là, c'est dans cette filière-là que Actéon se place pour faire du développement local, pour faire du tourisme rural. Voilà.
D'accord.
Alors, pourquoi pas le ministère du tourisme ? Eh bien oui, pourquoi pas le ministère du tourisme ? Et à l'heure actuelle, une de mes missions, c'est justement d'ouvrir les yeux du ministère du tourisme sur l'activité que nous menons et de faire en sorte que ça soit considéré comme un des éléments du tourisme national, quoi.
D'accord.
Alors, mais c'est très très dur à faire passer. Alors, le tourisme national, ça n'a pas de problème, tout le monde est au courant que ça rapporte, que c'est la deuxième, je crois.
Oui, je crois bien.
Hein, c'est ouais. c'est la deuxième
source de
revenus en France. Mmh. Bon, d'accord. Mais bien souvent, on oublie que le tourisme rural est une partie importante de ce tourisme, de ce tourisme français en France. Et on oublie encore plus que la chasse est un de ces éléments du tourisme rural. Mais ça, je dirais que c'est un peu de la faute des chasseurs, c'est peut-être un peu la faute aussi des administrations, peut-être. C'est que aujourd'hui, si vous me demandez des chiffres, je serais incapable de vous donner des chiffres précis.
D'accord.
Parce que il existe sûrement des éléments disséminés à droite ou à gauche, mais on n'a aucune donnée précise et chiffrée qui permette de dire la chasse en France rapporte sur tant, réparti dans les régions de telle et telle façon. Ça, pour l'instant, on est incapable d'y répondre.
Bien, ben, ça tombe très bien parce que je vais recevoir prochainement le ministre du Tourisme, justement, et je lui poserai comme ça, par inadvertance, la question de savoir pourquoi il ne s'intéresse pas.
Je pense que j'ai intérêt peut-être à lui envoyer une petite note.
Bien, alors, une autre question. Votre activité s'exerce en France exclusivement ou bien alors vous avez des velléités vers l'étranger également?
Alors, l'association a été créée pour travailler en France.
D'accord.
Et essentiellement en France. Le but, c'est de faire, comme je disais tout à l'heure, du développement local en D'accord. France. Ceci étant, il se trouve que ce concept peut très facilement être exporté. En fait, c'est un concept, alors c'est peut-être un peu une tarte à la crème de dire ça maintenant, mais c'est un concept équitable. Nous faisons de la chasse équitable. Et donc, ce type de produit peut très bien être exporté en Afrique, peut être très bien exporté
en Espagne,
peut être très bien exporté en Turquie, peut être très bien exporté. Bon, voilà. Et donc,
ou en Pologne, si, dont vous revenez là.
Ou en Pologne, où effectivement, il y a des choses à faire. L'objectif n'étant pas de prendre des parts de marché sur les sociétés commerciales qui font déjà ce genre de choses, parce que nous avons une spécificité qui est donc le développement local et le réinvestissement local. Donc par exemple, on a sur le Burkina Faso, alors qu'il y a beaucoup de sociétés commerciales qui ont aussi des chasses au Burkina Faso, on organise des chasses au Burkina Faso dans des zones très spécifiques, en bordure des parcs nationaux, en particulier en bordure du parc W, où il y a des communautés, alors je ne me souviens plus du terme exact, enfin, c'est des communautés villageoises,
ouais,
intérêts synergétiques, qui donc organisent des chasses, et l'argent des chasseurs est immédiatement donné à la communauté locale.
D'accord.
Voilà.
D'accord.
Donc voilà, donc c'est là aussi c'est de la chasse équitable, c'est du grain, c'est du développement local. Et c'est ça nos spécificités. Donc effectivement, si on peut le faire à l'étranger, si on peut vendre notre savoir-faire à l'étranger, pourquoi pas.
Alors, quel est vos moyens, j'en sais trop rien, de pub, c'est-à-dire comment vous recrutez vos adhérents?
Alors on a plusieurs systèmes. D'abord on a un site internet,
oui,
qui est très très beau. Je vous conseille d'y aller.
J'y suis allé.
Acteon.fr.
Ouais.
Du reste, vous allez sur Google, vous mettez. Je ne vais pas faire de publicité, mais vous mettez même pas Acteon, vous mettez Tourisme Chasse en France,
ouais,
et le premier qui arrive, c'est Acteon.
Ah bon?
Ouais.
D'accord.
Testez, vous allez voir. C'est... Et pourquoi? Parce qu'on a un site qui est d'abord beau, mais qui en plus évolue pratiquement toutes les semaines. Toutes les semaines, on y apporte des informations nouvelles. On veut que ce soit un site vivant, un site qui tourne, un site où il y a des nouveautés, où les chasseurs, s'ils y vont une fois par mois, à chaque fois, ils vont y trouver des nouveautés intéressantes qui vont leur permettre ensuite d'avoir des choix divers et variés. Donc, on a le site internet. On a un catalogue, chaque année on sort un catalogue, en général il est prêt pour le salon de Rambouillet, ce qui me semble tout à fait normal. Et puis l'autre possibilité, ce sont les salons. Donc bah, on fait le salon de Rambouillet, là,
le Contrichaud,
le salon de la chasse de Chambord aussi, et puis quelques salons locaux comme celui de Tarbes. Cette année on a fait un salon en Espagne.
Ouais.
Qui a très très bien marché. On a beaucoup de demandes. Alors notre problème, c'est que, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est que des clients, finalement, on a des clients étrangers, on a des Belges, on a des Espagnols, on a aussi des Suisses. Et ce qu'on recherche, c'est toujours des territoires, quoi.
D'accord.
Et des possibilités de chasse.
Alors, justement, vous êtes structuré en fonction des régions françaises et vous avez des pôles, je suppose.
Ouais.
Alors, développez-nous ça, s'il vous plaît. Comment vous êtes organisé? Vous avez des directeurs de région? Vous avez des animateurs de région? Ça se passe comment?
Alors, je vais vous parler de l'organisation qui fonctionne depuis le mois de décembre 2005.
Ouais.
C'est une nouvelle façon de travailler, parce qu'on a tiré un peu les conséquences de la façon précédente. Nous nous sommes restructurés autour de 6 associations interrégionales, qu'on va appeler maintenant des pôles Actéon, qui sont des associations, mais qui sont des associations autonomes.
D'accord.
C'est-à-dire qu'il y a un président, un vice-président, hein, etc. Bon. Et ces associations vont gérer, donc, sur une partie de la France.
Elles adhèrent toutes à Actéon France.
Voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'elles récupèrent, elles sont en gros des franchisées, j'allais dire,
d'accord,
d'Actéon National. Le principe étant, on n'en a pas parlé, on en parlera peut-être tout à l'heure, c'est que ce qui est important aussi, pour nous différencier de certaines chasses commerciales, c'est uniquement sur des gibiers naturels. C'est-à-dire, soit du grand gibier, mais pas en parc, pas de chasse en parc. Soit du petit gibier. Alors le petit gibier, il ne faut pas non plus se cacher derrière son petit doigt. Et pas du petit gibier de boîte, c'est-à-dire pas de lâcher de la veille ou du matin.
D'accord.
Par contre, ce qu'on appelle du gibier qui a été lâché 3 ou 4 mois auparavant, mais qui a été élevé de façon artificielle au départ, c'est obligatoire. En France, sur le faisan, on ne connaît pas beaucoup d'endroits où on fait du faisan naturel à 100%. Ouais. Il y a quelques endroits, mais extrêmement petits. Mais c'est pas normal. Sur les chasses présidentielles de Rambouillet, la première partie de la vie des faisans est complètement, j'allais dire, artificielle, c'est-à-dire c'est de l'élevage. Mais après, ils sont mis sur le terrain, 24 jours, ils sont mis sur le terrain, et donc ils vont reprendre un caractère sauvage. Et c'est ça qui est important. Et donc, nous, à Actéon, nous nous imposons de ne chasser que des animaux avec un caractère sauvage.
D'accord. Voilà. Alors, je suppose que suivant les régions, vous avez différents types de chasse. Par exemple, prenons la région du sud-ouest, le Gers, les Landes, etc. Ça va plus être axé sur le gibier à plumes, par exemple la palombe, plutôt que vers le gibier à poil, le gros gibier, par exemple, parce que bon, c'est vrai qu'il doit y avoir du gros gibier dans le département du Gers, mais ils ont quand même une grosse tradition de la palombière, du perdreau.
Dans le Gers, on tire beaucoup plus de chevreuil qu'on ne tire de palombe.
Ah bon ?
Mais bien sûr. Le Gers est un territoire extrêmement riche en chevreuil. C'est un de ces territoires où les chasseurs locaux, en fait, le chevreuil, ça ne les passionne pas outre mesure. Donc, notre activité principale dans le Gers, c'est le chevreuil à l'approche.
Ah bon ?
Le chevreuil d'été à l'approche, partir du mois de juin. Alors, c'est dans un territoire vallonné, c'est sauvage, c'est beau, c'est.
Ouais.
C'est vraiment.
Vous prêchez un convaincu, là.
C'est le top. Ça, c'est le top. Bon, alors, on fait aussi un peu de chasse à la palombe, mais la chasse à la palombe, c'est à 99,9% vraiment du commercial. Hein.
Ouais.
Donc, nous, on joue pas dans cette cour-là, quoi. Par contre, on va faire de la bécasse.
Ouais.
Faire de la bécasse.
D'accord. Alors, justement, à ce sujet, les autochtones qui se trouvent, les Gersois par exemple, le bon Gascon qui se trouve sur son territoire, qui a toute une activité autour de la palombière, parce qu'il y a tout un historique autour de la palombière, est-ce que ces gens-là sont prêts à initier des gens qui arrivent de la région parisienne ou d'Alsace ou de Bretagne, je ne sais trop où?
Oui.
Est-ce qu'ils y mettent du leur parce qu'il y a tout un folklore autour de cette palombière?
C'est vraiment, alors à ce moment-là, c'est des décisions qui sont strictement, je dirais, personnelles de l'individu, quoi. Il y a des individus qui sont ouverts à ce genre de processus.
Ouais.
Ça va aller à un type du Nord qui vient voir une palombière, vont être tout contents, vont la faire visiter, etc. Et il y en a d'autres qui considèrent qu'ils sont chez eux et que c'est une tradition locale et qu'on ne doit pas en sortir.
D'accord.
Donc c'est vraiment, après, c'est l'individuel, quoi. C'est une conception individuelle de la chose, quoi.
Et vous n'avez aucun moyen de les influencer
Ah non, on ne cherche pas. Nous, on est en gros un outil qui est à la disposition des gens.
Ouais.
On est un outil. Si le concept qu'on leur apporte les intéresse, alors on va essayer de les convaincre que ça peut être intéressant pour eux, qu'ils vont y trouver quelque chose, etc., etc. Mais s'ils n'en veulent pas, il n'y a rien qui les oblige à prendre et nous, on ne va pas les forcer à.
D'accord.
Il faut que ça soit un système gagnant-gagnant. Quoi.
Ouais.
On ne peut pas imposer à quelqu'un de faire ceci ou de faire cela. Non, c'est pas, absolument pas dans notre conception.
D'accord. Bon,
c'est pour ça que c'est pas toujours facile d'imposer.
Ouais, je m'en doute.
C'est plus facile d'imposer de temps en temps que de convaincre.
Alors, bien sûr, il y a des traditions locales que les gens mettent plus ou moins bien. Enfin, c'est une question de bonne volonté de la personne qui reçoit.
Oui, oui, tout à fait.
C'est ça, hein.
Tout à fait.
Si j'ai bien compris.
Mais il y a aussi, faut dire, de temps en temps, un intérêt financier, quoi.
D'accord.
Clair.
Ok.
Il faut pas avoir peur de le dire.
Ouais.
On a taxé à une époque Actéon d'être une chasse faite pour les riches.
Ouais.
Ma réponse, elle est simple. Oui, c'est une chasse pour les riches, mais au bénéfice de gens qui en ont besoin.
Des autochtones.
Donc, c'est de la redistribution.
D'accord.
La redistribution, hein, quand vous prenez un pauvre, c'est pas le pauvre qui va pouvoir redistribuer à un autre pauvre, quoi.
Bien sûr. Bien sûr. Alors, Actéon, c'est pas forcément que de la chasse. Il y a également de la pêche. Et il y a également du tourisme vert. Donc ça fera l'objet de notre deuxième partie pour voir un petit peu ces imbrications qu'il peut y avoir, notamment au niveau du tourisme culturel, sportif ou autre. Hein. On verra ça tout à l'heure. On va marquer une première pause et puis on reprend tout de suite après.
As I went down in the river to pray, studying about that good old way, and who shall wear the robe and crown? Good Lord, show me the way. Oh, brothers, let's go down, let's go down, come on down, come on, brothers, let's go down, down in the river to pray. As I went down in the river to pray, studying about that good old way, and who shall wear the starry crown? Good Lord, show me the way. Oh, mothers, let's go down, let's go down, come on down, come on, mothers, let's go down, down in the river to pray. As I went down in the river to pray, studying about that good old way, and who shall wear the starry crown? Good Lord, show me the way. Oh, fathers, let's go down, let's go down, come on down, come on, fathers, let's go down, down in the river to pray.
Rencontre avec.
Bien, vous êtes toujours à l'écoute de Rencontre avec, et vous avez bien raison. Ce soir, mon invité se nomme Jean-Paul Widmer, et non pas Widmer, comme j'ai dit en début d'émission. Widmer, c'est d'origine suisse, hein, je crois. Hein.
Oui, c'est la Suisse.
C'est pour ça qu'on dit Widmer.
Voilà.
Bien, on a brossé le tableau génétique, je dirais, de Actéon. On a vu que on pouvait
travailler à la carte. C'est-à-dire que moi, par exemple, demain, je veux aller chasser quelque part, ou je veux aller me déplacer quelque part, aussi bien aller à la pêche que d'aller découvrir la faune, la flore, des paysages, etc. Je m'adresse à vous, et comment ça se passe? Alors là, on m'établit un devis, comment ça se passe? Je vous donne mes desiderata et
voilà. Donc
et
je pense que vous allez appeler avec une idée derrière la tête.
Bien sûr.
Quoique souvent on a des coups de fil du style mon mari va avoir 50 ans, je voudrais lui offrir un cadeau, comme il est chasseur, je voudrais lui offrir un cadeau au niveau de la chasse. Qu'est-ce que vous me proposez, quoi?
D'accord.
Alors bon, alors après, là, on va dire, oui, mais attendez, votre mari chasse quoi? Du gros, du petit? Qu'est-ce qui lui ferait plaisir, d'après vous? Est-ce que c'est un gibier de montagne? Est-ce que c'est ça? Bon, voilà.
Est-ce que c'est des isards dans les Pyrénées?
Voilà, c'est ça. Et donc, on va lui faire des propositions, puis elle va nous dire oui ou non, et on va pouvoir, comme ça, lui faire une proposition plus précise.
La cerner.
La cerner. Ouais. Bon. La plupart du temps, la personne qui va nous appeler, le client qui va nous appeler, il a déjà une petite idée derrière la tête.
Ouais.
Hein, c'est de dire, bah voilà, je voudrais. Ce qui m'intéresse, c'est du gibier de montagne, soit le lisard, soit du chamois. Où est-ce qu'on peut faire ça? Dans quelles conditions, etc. Et donc, à partir de ce moment-là, si c'est un coup de fil qui est passé au niveau national ou sur notre site internet, il est c'est retransmis aux responsables de pôle dont on a parlé tout à l'heure, aux responsables interrégionaux, qui, eux, vont prendre contact directement avec la personne, soit par mail, soit mieux par téléphone, pour essayer de connaître exactement, savoir quels sont ses souhaits, quels sont ses desiderata, et quelles sont éventuellement les activités autres que l'activité chasse que la personne souhaiterait faire. Cette personne ou d'autres qui sont là, les accompagnants, les enfants.
Ouais.
Et donc, à chaque fois, un devis va être établi en fonction du desiderata du client. Mm. Ce devis répertoriera un certain nombre de choses. Moyennant un coût de temps, on lui envoie le devis, il accepte, et après, vogue la galère.
Alors, dites-moi, à ce sujet, Jean-Paul Widmer, ça doit vous poser certains problèmes, parce que la chasse à l'isard dans les Pyrénées, ça n'est ouvert que 2 jours par an, je crois, ou un truc comme ça.
Non.
Ou 3?
Ah non. À partir du moment où les animaux sont soumis au plan de chasse, il y a des délais. Ça, il fut une époque où, effectivement, l'isard n'était pas soumis au plan de chasse, et où il y avait, oui, 2 ou 3 jours par an pendant lesquels on pouvait faire des battues, on pouvait tirer des lisards. Ouais. Non, maintenant, il y a des plans de chasse, et donc, à partir du plan de chasse, c'est-à-dire qu'il y a un nombre d'animaux attirés sur la saison de chasse, et donc, que ça soit fait le mercredi ou le jeudi de telle ou telle semaine, peu importe, quoi.
D'accord. Bien. Alors, ça peut poser aussi quelques problèmes quand, si c'est l'épouse, par exemple, qui décide de faire une surprise à son mari, en prenant contact avec un de vos pôles, ou peut-être directement à Actéon en France, et qu'elle ne soit pas dans la cible exacte de son mari, quoi. Ça vous est arrivé, ça?
À ma connaissance, non. Parce que automatiquement, si vous voulez, nos possibilités sont quand même pas aussi variées que dans un supermarché. Hein.
Ouais, d'accord. Bon, on vient pas faire ses courses.
C'est quand même relativement. Non, on arrive quand même relativement rapidement à cerner quel va être le desiderata du chasseur, ce qu'il a envie de faire. Et en principe, non. On n'a pas vu encore.
D'accord. Non, Bien. Alors, on a vu le domaine chasse. Maintenant, essayons de très rapidement de voir quelles sont les possibilités que vous offrez au niveau de la pêche.
Alors, au niveau de la pêche, hélas.
Parce qu'il n'y a pas que la pêche en rivière, il y a peut-être aussi la pêche.
Il peut y avoir la pêche en mer, mais bon, la pêche en mer, ça c'est géré par d'autres, nous on va pas aller sur ce créneau-là.
Ouais, d'accord.
Bon, nous ça va être la pêche en rivière ou en lac ou en étang. Bon, il se trouve que notre service n'est pas un service qui est recherché sur la pêche. Pourquoi? Tout simplement parce que n'importe quel pêcheur, il est dans un coin, il va au bistrot du coin, il dit où est-ce que je peux aller pêcher, il dit pour aller là, il sait où aller prendre une carte, il prend sa carte et il va pêcher.
Ouais.
Ça pose aucune difficulté. Il n'y a pas l'énorme difficulté qu'il y a pour la chasse, où il faut véritablement avoir l'autorisation de chasse, il faut avoir éventuellement le bracelet pour les animaux soumis en plan de chasse, etc. C'est beaucoup plus compliqué. Et donc, d'accord, là, au niveau de la chasse, nous offrons offrons un véritable service qu'en fait on ne peut pas offrir au niveau de la pêche. Alors la pêche, on a quand même quelques demandes au niveau de la pêche, et donc à ce moment-là, nous travaillons avec des pêcheurs professionnels.
Ouais. Il y en a encore beaucoup ?
Alors quand je dis des pêcheurs professionnels, c'est-à-dire des guides de pêche professionnels.
Ah d'accord.
Pas des pêcheurs professionnels, des d'accord. guides de pêche professionnels, excusez-moi. Le terme n'était pas adéquat. Mm. Des guides de pêche professionnels, qui sont maintenant des guides de pêche agréés par, par le ministère du Tourisme, etc., etc. Donc c'est du sérieux, c'est du... Et donc, ce qu'on nous demande des fois, c'est de dire, ben voilà, on aimerait bien aller dans les Pyrénées pêcher des truites dans les lacs d'altitude.
Ouais.
Et là, on ne peut pas y aller n'importe comment. Il faut qu'il y ait des guides qui emmènent, parce que s'il y a du brouillard qu'il y a ou n'importe quoi, on risque de perdre des gens.
Bien sûr.
Donc là, il y a vraiment une prise en charge. Et là, on peut véritablement offrir un service. Alors, il y a toujours le service, le guide.
Ouais.
Mais, et ça, c'est... impératif et fondamental pour nous, si avec le guide de pêche, ben les gens pourraient traiter directement avec le guide de pêche.
Mmh.
Nous, on va rajouter derrière l'hébergement, la restauration et éventuellement les activités annexes que le pêcheur va avoir envie de faire. Voilà. Donc, ça, c'est très important.
Absolument. Et ça m'amène tout de suite vers l'orientation que vous pouvez donner à vos clients, hein, on va dire entre guillemets, puisque ce sont des clients pour vous. Hein. Par exemple, il y en a deux qui veulent aller pêcher l'amble chevalier dans les Pyrénées ou ailleurs. Et là, à ce moment-là, vous leur communiquez, vous avez un guide qui peut leur dire, ben, écoutez, en parallèle, vous pouvez aller jouer au golf, aller au festival de jazz de Marciac, vous pouvez aller au...
Ça, c'est le boulot du responsable de pôle, hein,
ouais.
de conseiller... de proposer, et si la personne est intéressée, de dire, ben voilà, on a tel et tel...
Ouais.
Voilà, qu'est-ce que vous souhaitez faire ? Parce que si on prend la chasse au chevreuil d'été,
ouais.
C'est une chasse qui se pratique le matin de bonne heure et tard le soir.
Ouais.
Et donc toute la journée, en fait, est disponible pour la personne pour faire une autre activité. Donc on peut lui proposer, soit avant qu'il ne vienne dans le cadre de son devis,
ouais. Hein,
soit une fois qu'il est sur place, en fonction des conditions météorologiques, en ouais. fonction du désir de la personne, on a des activités diverses et variées à proposer. Là, au niveau de l'hébergement, on travaille beaucoup avec des chambres d'hôtes,
ouais.
ou avec Bienvenue à la ferme, des organismes de ce type-là, et eux, ils ont l'habitude aussi de cette situation-là. Ils ont aussi des catalogues qui leur proposent des activités diverses dans les environs. Voilà, donc...
C'est-à-dire que, à la limite, pourquoi pas allier une partie de chasse le matin, une montée en col à vélo l'après-midi, et pourquoi pas une activité thalasso deux jours après.
Absolument. Tout est possible.
Tout est possible.
C'est comme à la Samaritaine.
D'accord. Donc on vient et puis on dit voilà, moi ce qui m'intéresse c'est ça.
Voilà.
Est-ce que vous avez la possibilité
Après on dit c'est possible ou c'est pas possible. Voilà,
d'accord.
On a ça ou on l'a pas. Bon.
D'accord. Alors comment vous travaillez avec votre réseau de gîtes, etc. où vous êtes obligé de parce que vous travaillez très peu en hôtel, je crois. Hein. Vous travaillez surtout avec les gîtes ruraux.
Disons que nos clients ont toujours dans le cadre de ce développement local, on est là pour favoriser l'initiative locale, quoi.
Ouais, bien sûr.
Donc on va plutôt aller vers les agriculteurs locaux qui ont monté un gîte.
Voilà. Ouais.
C'est souvent. Si un client nous dit, moi je vais aller dans un 4 étoiles, on va lui trouver un 4 étoiles.
Bien sûr.
En fait, ça se passe quasiment pas.
Ouais.
Les gens qui viennent, ils cherchent de l'authentique. Ils cherchent de l'authentique, du naturel. Et donc, quand on peut leur présenter une chambre d'eau de qualité, parce que c'est toujours de la qualité, hein, au niveau, comment dire, ambiance, au niveau
confort,
au niveau confort, etc. Mmh. etc. Donc, c'est de la qualité, mais authentique dans des anciens bâtiments rénovés et si possible avec des hôtes qui sont des hôtes sympathiques.
D'accord.
Parce qu'on a quand même une contrainte qui est importante. Je vous disais tout à l'heure, par exemple, au chevreuil pendant l'été, les chasseurs partent de bonne heure le matin, viennent tard le soir. Il faut que les responsables des gîtes soient capables de s'adapter
aux horaires.
D'accord.
Et là, vous n'avez aucune difficulté. Vous avez
choisi en fonction. Et bon, pour l'instant, ça se passe bien. Ouais. Si vous voulez, nous, ce qu'on apporte quand même, c'est important. Et c'est qu'on apporte une saison touristique qui va être augmentée par rapport à la saison touristique classique. Mmh. C'est-à-dire que ce soit à l'automne ou bien en tout début de saison, on va faire en sorte que les gîtes fonctionnent à des périodes où normalement ils ont très peu de demandes. Quoi.
D'accord. D'accord.
On va allonger la période d'utilisation de ces hébergements.
Et à ce niveau-là, vous avez des exigences auprès de ces propriétaires de gîtes pour leur dire, bon, ben, nous, voilà, dans tel créneau de prix, ça nous intéresse, ou bien alors vous laissez libre cours
Non, mais vous savez, bon, les tarifs, ils sont ce qu'ils sont. Généralement, à peu de choses près, ils sont équivalents à un endroit ou à un autre. Hein. Mmh. Donc, on négocie pas beaucoup avec le... Non, il n'y avait pas véritablement de négociation. Là aussi, il faut que ça soit du gagnant-gagnant, c'est-à-dire que le responsable du gîte, il sait que s'il veut avoir des clients, il n'a pas intérêt à demander des fortunes.
Ouais.
Et donc, en compensation, ben, nous, on ira plutôt chez lui parce qu'il sera moins cher. Voilà, donc,
D'accord. Donc, est-ce que vous avez également des retombées des gens qui sont partis avec vous, enfin par l'intermédiaire d'Actéon, est-ce qu'ils ont la possibilité de donner des notes?
Alors, ils ne donnent pas véritablement des notes, mais depuis cette année, on a lancé un questionnaire qu'on remet donc à chacun de nos clients, en leur demandant à poser un certain nombre de questions déjà sur qui... Alors c'était surtout cette année, bon maintenant on va simplifier, mais tous les nouveaux qui viendront, on va leur poser les questions qui sont, comment ils ont connu Actéon, en dehors d'Actéon, qu'est-ce qu'ils chassent, qu'est-ce qu'ils souhaiteraient chasser, enfin etc. Mm-hmm. Et puis après on demande, et il y a un petit questionnaire qualité en disant, ben voilà, est-ce que vous avez été satisfait de votre séjour, avec des croix dans les cases, et ça nous a permis d'avoir effectivement cette année des retours particulièrement intéressants. Alors ce qui est bien, c'est que on est à 80%, les gens sont à 80% satisfaits.
Ouais. Donc, et les 20% autres, ils reprochent quoi?
Les 20% autres, c'est parce
qu'il y a toujours des râleurs de toute façon qui ne seront jamais satisfaits.
Des râleurs, moi des fois j'emploie un autre terme, mais ouais. Non, mais c'est vrai qu'il y a des gens qui sont jamais contents de rien. Bon, ouais. C'est comme ça. Il y a des gens qui sont difficiles. Et puis il y a aussi des fois où ça marche pas très bien. Il y a des aléas de climat, des choses comme ça qui font que mais quand on est à 80% de satisfait, bon, effectivement, si on a 90, c'est encore mieux. Ouais. Mais déjà 80, c'est déjà bien. Il faut qu'on arrive à tenir cette proportion.
Bien sûr,
c'est pas toujours évident.
Ouais. Bon, une question qui va vous fâcher peut-être un tout petit peu, parce que vous ne l'avez peut-être pas forcément en tête. Combien de personnes sont passées chez vous? Grosso
alors,
modo.
Alors, on a un fichier client, à l'heure actuelle, de pratiquement 3000 noms.
Ouais.
Les études du CSA, du ministère du Tourisme, etc., nous disent que on a un potentiel de l'ordre de 60 000 personnes intéressées.
Un potentiel?
Potentiel, hein,
ouais.
60 000 personnes. Donc on en a, nous, à l'heure actuelle, on a un fichier client de 3 000 personnes.
Ouais. Donc ils vous laissent de la marge.
Donc on a de la marge. Moi je pense que les 60 000, c'est un petit peu... Je pense que c'est
utopique.
C'est un peu utopique, ouais. Ça me paraît un peu beaucoup. Tant mieux si c'est tant mieux.
Ouais. Par rapport, peut-être, on peut peut-être faire tirer des plans sur la comète par rapport au nombre de gens qui ont le permis de chasse en France.
1,4 million.
1,4 million.
Mmh.
Ouais.
Oui, mais bien sûr. Ce qu'il faut voir, c'est que 80% des chasseurs sont des chasseurs demi-rurales qui chassent sur leur terre. Donc, nous, on fait appel aux chasseurs nomades.
Oui, c'est ça.
Hein, on fait appel aux chasseurs nomades, donc c'est quand même qu'une petite proportion des chasseurs. Hein.
Ouais. Donc, pour arriver à bien stabiliser votre association sur le plan financier, s'entend, quel chiffre serait souhaitable?
Alors, entre le fichier client et puis la... des gens qui viennent chaque année. C'est l'année dernière.
Parce que pour le moment, on est bien d'accord, vous êtes déficitaire.
Non, on ne peut pas dire qu'on est déficitaire. À l'heure actuelle, on est dans une phase de développement.
D'accord.
On est dans une phase de développement qui fait que. En essayant d'employer des professionnels, c'est-à-dire des gens rémunérés pour faire ça.
D'accord.
Au départ, l'association, c'était vraiment de l'associatif pur, c'était uniquement du bénévolat, quoi.
D'accord.
Bon, ça tient un moment, ça tient pas longtemps, et là, il faut vraiment qu'on rentre dans une phase vraiment de professionnel. À partir du moment où on rémunère des gens, il faut qu'on ait un nombre de possibilités de chasse qui permettent de rémunérer cette personne.
D'accord.
Et ça, pour l'instant, en dehors du GER, où là, à l'heure actuelle, il y a, on va dire, une personne et demie qui est financée sur les marges que nous faisons sur nos clients, le reste des associations ne couvre pas la totalité. Donc il faut qu'on arrive à financer cette partie-là pour pouvoir trouver, en fait, c'est du démarchage vis-à-vis des territoires pour trouver des territoires.
D'accord.
C'est là où... Et quand on aura suffisamment de territoires, normalement, on devrait s'autofinancer. L'objectif, c'est dans un délai de 2-3 ans, maximum 3 ans, de pouvoir s'autofinancer, quoi.
D'accord.
Et notre problème à l'heure actuelle, c'est de trouver les moyens, c'est pour ça qu'on essaye de les trouver auprès du ministère du Tourisme et qu'ils ont du mal à comprendre ça. Non, je crois que c'est surtout qu'ils ont du mal à trouver des sous, c'est pas à comprendre, pardon, à trouver des moyens. De financer le démarchage, en gros, pour passer de la situation A actuelle, où en gros on arrive à faire à peu près 1200 nuitées, puisqu'il faut compter en nuitées en tourisme, 1200 nuitées par an, à 6000 nuitées, quoi.
Ouais, d'accord. D'accord. Ceci dit, vous ne gagnerez jamais, enfin, vous ne pourrez jamais faire de bénéfices puisque vous êtes en association loi 1901, je suppose.
Oui.
Donc, ce qu'il faut, c'est arriver à boucler, quoi.
Oui.
Alors, pour le moment, vous êtes très aidé par le ministère de l'Agriculture.
Oui.
Et le but à atteindre, c'est justement l'autofinancement.
L'autofinancement,
d'accord.
C'est l'autofinancement. Au moins au niveau des pôles. Je ne dis pas que la structure nationale n'aura pas toujours besoin d'une aide du ministère.
Ouais.
Parce que c'est quand même un travail très, très particulier, très spécifique. Mais les pôles devraient pouvoir arriver à s'équilibrer. Et ça, moi je suis persuadé que dans un délai de 2-3 ans, on doit y arriver. Quoi.
Combien avez-vous de pôles à l'heure actuelle ?
À l'heure actuelle, il y en a 4 qui tournent.
Ouais.
Il y en a 2 qui tournent très très bien. Il y en a un troisième qui est et deux autres, le troisième et le quatrième sont en cours de
développement.
De développement, quoi.
D'accord.
Et puis il y en a 2 qui pour l'instant sont pas marchés. Enfin, il n'y a pas de responsable nommé. Il y en a un sur l'ouest et puis l'autre sur le sud-est.
D'accord.
Ces deux pôles-là pour l'instant ne sont pas fonctionnels.
Bien. Alors, ça suppose combien de salariés Actéon aujourd'hui entre le siège et.
L'idée, c'est d'arriver à avoir au minimum deux salariés par pôle.
D'accord.
Donc 6 fois 2, 12.
Ouais.
Hein, plus 2 ou 3 personnes sur les nationales, ça ferait une quinzaine de personnes. Quoi.
Une quinzaine de personnes. Et à partir de là.
Alors, une quinzaine, attendez-nous bien, une quinzaine de personnes rémunérées sur la structure. Quoi.
D'accord. Voilà. On est bien d'accord. D'accord. Puisqu'on a bien compris que chaque pôle est indépendant, enfin, est indépendant.
Oui, indépendant.
Est indépendant, mais adhère quand même au national. Quoi. Donc il faut que chaque pôle se rentabilise lui-même avant de. D'accord. Bien. Alors, tourisme vert, vite fait, tourisme vert, donc...
Bah, le tourisme vert, si vous
voulez... Découverte des paysages, de la faune, de la flore, du patrimoine monumental, du patrimoine culturel, dans une ambiance de loisirs, je suppose, ou sportif...
Ça, on l'intègre dans nos produits chasse ou dans nos produits pêche, donc produits
d'accord.
Chasse qui est à 95%.
Hein. Mais il n'y a pas de spécificité tourisme vert.
Alors, pour l'instant, on n'en a pas, on est en train de démarrer, c'est en Argonne, alors c'est pas du tourisme vert au sens classique du terme, c'est un tourisme historique, un tourisme de mémoire sur les lieux de guerre de la guerre de 14, sur les tranchées de la guerre de 14, dans une région tout à fait particulière de l'Argonne, où en fait la ligne de front s'est stabilisée à partir de 1914 et restée identique jusqu'en 18.
Ouais.
Donc les belligérants d'un côté et de l'autre se sont stabilisés et donc ont créé en arrière-front des ouvrages qui sont des ouvrages enterrés, et ces ouvrages ont été complètement oubliés jusqu'à maintenant. La guerre est passée, tout le monde n'avait qu'une idée, c'était oublier cette horreur. La forêt a poussé là-dessus. Bon, une forêt qui pousse, c'est une forêt dense, c'est une forêt sauvage, personne n'y va. À l'heure actuelle, on arrive à un stade de futaie qui commence à s'éclaircir sérieusement. Et là, on redécouvre des choses, on trouve des choses complètement étonnantes.
Mmh.
Et donc,
Par exemple,
il y a 2 ans, ils ont découvert la chambre dans laquelle venait le Crown Prince quand il venait sur le front inspecter le front. Et ils ont retrouvé avec le lit, il y avait les douilles encore pour éclairer, il y avait le système d'éclairage. Enfin, c'est dans un état. Parce qu'en plus, le fait que ça a été fermé en milieu humide, ça s'est conservé, quoi.
Ouais,
il n'y a pas d'oxygène. Hein, ça s'est conservé et c'est étonnant ce qu'on arrive à retrouver, quoi. Et donc on est en train de monter des produits avec le syndicat intercommunal de Sainte-Menoule, mais c'est Actéon qui va commercialiser. Du reste, Actéon a participé à la construction d'un hôtel qui s'appelle le Tulipier, qui est un hôtel superbe, 3 étoiles avec piscine intégrée et tout, à des prix défiant toute concurrence.
D'accord. Et là, vous avez du potentiel. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui...
Là, c'est clair, il y aura du potentiel.
D'accord.
Un potentiel énorme. Et ce que les gens vont découvrir, ils vont être étonnés, quoi.
Et ça, vous comptez le développer sur d'autres sites également?
Là, il y a une opportunité qu'on a saisie.
Ouais.
Bon, je ne dis pas qu'on fera ça partout, quoi.
D'accord.
Par contre, donc, tout ce qui est tourisme vert, tourisme de découverte de patrimoine et autres, on va l'intégrer, on va le conseiller à nos clients s'ils ont envie de le pratiquer, quoi.
Dernière question avant de passer à la troisième partie. Est-ce que vous avez eu l'idée de créer un guide Actéon, avec une partie chasse, une partie pêche, une partie loisirs.
Il y a un catalogue, chaque année on sort un catalogue.
C'est un catalogue,
qui est uniquement un catalogue chasse. Hein.
Ouais.
Qui est un catalogue chasse, mais qui est un catalogue
des bons points et des mauvais points, par exemple. Vous dites, là ça vaut 17 sur 20, là ça vaut...
Ah non, ça on ne va pas le faire.
Ouais.
Ça on ne va pas le faire, mais s'il y a... S'il y a des personnes qui veulent le faire, s'il y a un guide du chasseur Actéon qui veut se mettre en place, pourquoi pas? C'est bien, ça ferait de l'émulation, ça serait sympathique.
D'accord. Bien, Jean-Paul Widmer, on va adopter une nouvelle pause, et puis on va terminer par une petite séquence un peu ludique pour mieux connaître votre personnalité. Think of your face.
And the world.
Rencontre avec. Rencontre avec.
Bien, vous êtes toujours à l'écoute de RVE, Rencontre avec, RVE 103.7. Et mon invité est ce soir Jean-Paul Widmer. Et vous avez vu comme ça peut être très intéressant de connaître certains aspects de la pêche, de la chasse, du tourisme vert, etc. Et puis on n'a pas abordé un petit problème qui me tient à cœur concernant les chasseurs. Qui, on le disait hors antenne à l'instant avec Jean-Paul Widmer, sont des acteurs du maintien de l'équilibre bio-écolo, oui, etc.
Le fait que les chasseurs soient sur le terrain, ils soient souvent avec un intérêt précis, ces personnes vont participer au maintien d'une certaine qualité de l'environnement au sens large du terme. Que ça soit le paysage, que ça soit la biodiversité, parce que qui dit paysage, pour qu'un paysage soit beau, il faut qu'il soit varié. Dès qu'il est varié, il est biodiversifiant, si j'ose dire.
D'accord.
Et donc, indirectement, le chasseur va contribuer, même sans le vouloir, et même sans disons, en avoir une volonté. Alors, il y a certains chasseurs qui ont la volonté de le faire, mais il y en a beaucoup qui le font sans s'en rendre compte, quoi. Qui font de l'écologie au sens large du terme, comme M. Jourdain faisait de la prose.
Ouais, d'accord. D'accord. Bien. Jean-Paul Widmer, est-ce qu'il y a une question que je ne vous ai pas posé et que vous auriez aimé que je vous pose.
Sur ce sujet-là ou
Surtout tout ce qu'on a abordé depuis le début de cette émission.
Oh là là, ça c'est pas évident d'y...
Ah non, mais s'il n'y en a pas, il ne faut pas non plus en inventer. Hein. C'est simplement peut-être que vous vous êtes dit, tiens, pourquoi il ne m'a pas posé cette question.
Oui, si, il y en a une et c'est important. C'est important, c'est la dimension économique de la chasse.
Oui. Exact.
Jusqu'à maintenant, les chasseurs ont été attaqués violemment, même méchamment parfois, et ils ont cherché à se défendre. Et comme ils étaient attaqués en général par les fameux écologistes, ils ont essayé de se défendre avec le côté écologique, prouver qu'ils étaient à la limite plus écolos que les écolos eux-mêmes. Et ils l'ont relativement bien fait, puisque maintenant, plus personne de sérieux ne remet en cause l'intérêt de la chasse sur ce qu'on disait tout de suite, c'est-à-dire sur son action plutôt positive sur les milieux naturels. Par contre, il y a un aspect qui n'avait pas été du tout mis en avant, et qui maintenant, je crois qu'il faut mettre en avant, c'est l'aspect économique. Et là, à l'heure actuelle, je vais dire que, heureusement qu'il y a la grippe aviaire. La grippe aviaire a fait réagir un certain nombre de personnes, et en particulier, je citerai les préfets au niveau de la Sologne, puisqu'à un moment, il avait été envisagé d'interdire purement et simplement la chasse. On ne sait pas pourquoi, parce qu'on ne sait pas ce que ça a à voir avec la grippe aviaire, mais il y avait des gens toujours bien intentionnés qui disaient « Hop, ça va permettre d'interdire la chasse. On va interdire la chasse. » Donc les braves préfets, ils se sont réunis, et puis ils ont dit « Si on interdit la chasse, qu'est-ce qui se passe ?» Ils ont commencé à faire des calculs, ils ont commencé à prendre leurs calculettes, et rapidement, ils ont pris leur téléphone, ils ont téléphoné à Matignon en disant « Attention, ne faites pas n'importe quoi, parce que si vous devez indemniser toutes les personnes qui, peu ou prou, sont liées économiquement à la chasse, ça va faire des fortunes. Est-ce qu'on pourra payer? Et c'est là où un certain nombre de responsables ont pris conscience de l'importance économique de la chasse. Et ça, c'est un point qu'il va falloir que les chasseurs travaillent. Je sais que la Fédération Nationale des Chasseurs est branchée là-dessus, l'Office National de la Chasse aussi. Il va falloir qu'on trouve des éléments chiffrés pour bien prouver ça. À l'heure actuelle, on travaille sur une étude qui a été faite en 93 et 94 par un professeur de l'Institut National Agronomique qui avait fait une étude économique sur la chasse en 93 et 94, qui a eu beaucoup de mal du reste à s'en sortir. Pour l'instant, on se base uniquement là-dessus, mais il faut l'actualiser, il faut qu'on vienne à des choses sérieuses, des choses palpables, et on va voir que la chasse a un poids économique important. Et qui dit poids économique dit ensuite respectabilité.
D'accord, bien. Eh ben, vous voyez qu'en cherchant bien, il y a toujours des questions qui restent en suspens comme ça. Alors, On va terminer, et assez rapidement, parce que l'heure tourne. Je vais essayer de vous poser quelques questions pour bien cerner votre personnalité. Des questions, c'est un petit jeu de questions-réponses très rapide. Hein. Alors,
mais là, je suis un peu suisse. Hein.
Et Jean-Paul Wiedemer, Paris ou province ?
Province.
Costard ou jeans ?
Ni l'un ni l'autre. Décontracte.
Repas gastro ou repas entre potes ?
L'un et l'autre.
Transport en commun ou voiture particulière ?
Sur la région parisienne, transport en commun, j'essaye de faire tout en transport en commun, mais hélas, on ne peut pas tout faire. Et quand je me déplace en campagne, hélas, on est bien souvent obligé de prendre des voitures.
Coluche ou Jamel Debbouze ?
Ah, Coluche.
Bien. Céline Dion ou Chimène Badi ?
Je dirais facilement l'une et l'autre. Hein. J'ai pas... Non.
C'est votre droit.
Ouais, l'une et l'autre.
C'est votre droit.
Ouais.
Beatles ou Rolling Stones ?
Plutôt Beatles.
Foie gras ou rillettes ?
Je vais être obligé de dire l'un et l'autre.
Enfin, dernière question qui me fait très rire.
J'espère moi aussi.
Emmanuel Béart ou Sœur Emmanuel ?
Oh, alors là. Non, Emmanuel Béart.
C'est pas une question de moi, hein. c'est une question d'un confrère.
Non, mais Emmanuel Béart, ça, il n'y a pas de problème. Mais on peut pas comparer, c'est pas comparable, quoi. C'est pas de... Mais Emmanuel Béart, quand même.
Bon, très bien. Eh bien, cette émission est terminée.
Je vous remercie.
C'est moi qui vous remercie, Jean-Paul Wiedemer, d'avoir répondu aussi allègrement à toutes mes questions. Merci. Je pense que nos auditeurs auront très apprécié cette émission parce qu'ils auront appris, ils auront peut-être découvert des recoins qu'ils ne connaissaient pas. Merci, bonne soirée.
À partir de 18h, rencontre avec tous les dimanches et la rediff le mardi à 23h.
Rencontre avec.
Never know how much I love you. Never knew how much I care. When you put your arms around me, I get a fever that's so hard to bear. You give me fever when you kiss me, fever when you hold me tight, fever in the morning, fever all through the night. Sun lights up the daytime, moon lights up the night. I light up when you call my name, and you know I'm gonna treat you right. You give me fever when you kiss me, fever when you hold me tight, fever in the morning, fever all through the night. Everybody's got the fever. That is something you all know. Fever isn't such a new thing. Fever started long ago. Romeo loved Juliet. Juliet, she felt the same. When he put his arms around her, he said, Julie, baby, you're my flame. Now give us fever when we kiss us, fever with thy flaming youth. Fever, I'm on fire. Fever, yeah, I burn forsooth. Captain Smith and Pocahontas had a very mad affair. When her daddy tried to kill him, she said, Daddy, oh, don't you dare. Give me fever with his kisses, fever when he holds me tight, fever.
fever. I'm his missus, daddy, won't you treat him right?